On va s'intéresser aujourd'hui, ce matin, quelque chose qui, je pense, est essentiel et important pour les uns et les autres. C'est de nos relations, des relations que nous tissons les uns avec les autres, que ce soit ici, dans cette église, ou que ce soit autour de nous. L'être humain, c'est un être social, c'est un être relationnel. Fondamentalement, l'homme n'est pas fait pour vivre tout seul. Alors, quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain, l'homme, la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous connaissez ce texte? C'est le texte qu'on trouve dans le récit de la Genèse où il est question de la création de l'humanité, la création de l'homme. Généralement, ça, c'est un verset qui est utilisé par les célibataires pour demander une femme. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, fais que je trouve une femme. En fait, c'est pas tout à fait le sens de ce verset. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y aurait que les hommes qui pourraient prier pour trouver une femme? Parce que les femmes peuvent prier aussi et demander au Seigneur de pouvoir trouver un mari, un époux. Mais le mariage, la relation d'un homme et d'une femme, quand vous lisez le premier texte qu'on trouve dans la Genèse, où il est question de la création, c'est pour parler de la sociabilité que l'homme est appelé à mettre en place. L'homme et la femme sont ensemble et il y a un commandement qui est donné par Dieu à l'homme et à la femme, c'est multiplier et peupler la terre. Donc, il est question de créer un ensemble d'hommes et de créer des relations. S'il y a plusieurs personnes, forcément, ces personnes vont avoir des relations. Il n'est pas bon que l'homme soit seul parce qu'il a besoin de relations pour s'épanouir. Il a besoin de relations pour pouvoir construire son identité. Il a besoin de relations pour être encouragé, pour être édifié. La relation, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour un être humain. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle « Seul au monde ». Il y en a certains qui l'ont vu. Combien? Une? Un, deux, trois. Ouais, vous n'êtes pas trop, trop nombreux quand même. Je vous conseille, c'est vraiment un très bon film. Moi, il est dans mon top 10 des meilleurs films. C'est un film avec Tom Hanks, un acteur américain. Et ce film raconte l'histoire d'un homme qui travaille pour une entreprise de livraison, qui fait des livraisons de courriers, d'objets au niveau international. Et un jour, il a un accident d'avion. Il traverse le Pacifique, il survole le Pacifique, il y a un orage qui éclate et son avion se scratch dans l'océan. Il survit au crash, il va échouer sur une île déserte. Et là, pendant plusieurs années, pendant 4 ans, il va être seul pour survivre. Il est seul au monde. Il comprend assez rapidement que les secours ne vont pas pouvoir le trouver. Et donc, il met en place là toute une méthode de survie. Et à un moment donné, il perd la raison. Il n'en peut plus, il en a marre. Il essaye de faire du feu, il n'y arrive pas. Alors, vous savez, il frotte sur le bout de bois jusqu'à qu'il y ait de la chaleur qui vienne, qu'il y ait une étincelle qui surgisse. Et puis, il fait ça pendant des heures, des heures, des heures. Il est désespéré. À un moment, il glisse, il se blesse et sa main est pleine de sang. Et de rage, il prend un ballon qui va jeter comme ça, un ballon qui était dans les débris du crash, et qui va jeter de colère. Et puis, lorsqu'il va retourner vers le ballon, il va voir la trace de sa main. Et puis, il va faire des yeux et puis une bouche comme ça. Et il va commencer à parler à son ballon. Il va commencer à lui parler. Il va se confier, il va se mettre en colère, il va lui dire ses espoirs. Et c'est à ce moment-là qu'il retrouve courage, qu'il retrouve de la force et qu'il arrive à faire du feu et qu'il arrive à pouvoir survivre. Et j'aime beaucoup cette image-là, cette illustration qui fait qu'un homme seul ne peut pas survivre. Il a forcément besoin d'un vis-à-vis, il a forcément besoin de créer une relation pour s'épanouir. Il y a quelque chose qui manque à la vie de quelqu'un s'il n'a pas de relation. Nous nous accomplissons dans les relations les uns avec les autres. On s'accomplit dans nos relations avec nos parents, surtout au début de notre existence, lorsque nous sommes enfants, avec nos frères, avec nos sœurs qui composent notre famille, avec nos enfants quand nous en avons, avec nos amis, avec nos voisins, avec les gens que nous rencontrons dans le club de sport que nous fréquentons, avec notre patron, avec nos employés, avec nos collègues. Nous avons des tas et des tas de relations. Et dans chaque domaine, dans chacun de ces genres de relations, le but, c'est que nos relations soient bonnes pour que nous puissions être épanouis, assurer notre épanouissement. De bonnes relations nous permettent d'être épanouis. De mauvaises relations, on voit comment ça joue sur nous de manière négative. Et ça, c'est vrai aussi dans l'Église. Sauf que malgré cette nécessité absolue pour l'être humain d'avoir des relations, de s'accomplir dans les relations, c'est souvent l'inverse qui arrive. Les relations sont ou peuvent être source de problèmes. Et au lieu de nous épanouir, c'est le contraire. Ça nous fait dépérir, ça nous dessèche un peu. On peut être confronté à des paroles qui ont été mal comprises, à des comportements qui n'étaient pas adaptés, à des propos qui ont été mal interprétés, parce que les mots ont été mal choisis ou parce que le ton qui a été utilisé n'a pas été bien employé. Et tout ça, ça mine nos relations et ça joue sur notre personne. Alors, c'est pour ça que, ensemble, ce matin, on va voir ce thème, ce sujet de la sagesse dans les relations. Parce que Jacques dit que c'est la sagesse qui va permettre de construire de bonnes relations. Cette sagesse dont il est question dans la lettre qu'il a écrite, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, il l'appelle la sagesse qui vient d'en haut, celle qui vient d'en haut. Parce que Dieu est l'inspirateur de cette sagesse. Et on sent que dans la communauté à laquelle il s'adresse, il y avait un peu des problèmes relationnels. Il y avait des querelles, des disputes. Et il est en train de dire, mais si vous voulez que ces problèmes trouvent une solution, il faut que vous puissiez être sensible et recevoir la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut. Alors on va lire ce texte qui se trouve au chapitre 3 et on va lire du verset 13 au verset 18. Jacques dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ?» Voilà ce que peut introduire la sagesse dans une relation, de la douceur. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse que vous prétendez exercer n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Verset 16. « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, sans indécision et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Au verset 15 et 16, Jacques différencie la sagesse de Dieu, qu'il appelle la sagesse d'en haut, de la sagesse humaine. Dans ces deux versets, il décrit ce qui est la sagesse humaine. Il dit qu'elle est terrestre, c'est-à-dire que elle est sans relation avec Dieu. Elle ne prend pas en compte pour les relations avec les autres la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Il dit qu'elle est charnelle, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur les sentiments humains, sur la raison humaine. Il dit qu'elle est diabolique, parce que son résultat, c'est l'affaiblissement des relations. C'est même la destruction des relations. Et on sait que ce monde spirituel qui nous est révélé dans les textes bibliques, le but, son objectif, c'est de détruire tout ce que Dieu a fait, de détruire ce qui est bon. La sagesse humaine dont il est question là, elle se traduit, dit Jacques, par un zèle amer, on pourrait dire un esprit de parti, par la rivalité, par le désordre, parce qu'elle amène le trouble, elle amène l'agitation, et aussi des mauvaises actions. Je crois là que les mauvaises actions dont Jacques parle, ce sont les effets concrets de cette sagesse humaine. La domination, la critique, la calomnie, le mépris, le refus de se parler, le conflit. Elle est complètement différente de celle qui est décrite par Jacques dans les versets suivants. Là où il est question quand même de pureté, de paix, de modération, de conciliation, de compassion, sans indécision, sans hypocrisie. Alors entre les deux sagesses, il y en a une qui fait envie et il y en a une qui ne fait pas du tout envie. Moi, la sagesse qui me fait envie, c'est celle où il est question de pureté, où il est question de paix, où il est question là, de conciliation. Ce n'est pas celle où il est question de division, où il est question de dispute, où il est question de rivalité. Alors ce qu'on va faire ensemble, et l'objectif de ce partage, c'est de voir comment la sagesse divine peut influencer nos relations. Je pense que dans cette description de la sagesse divine, il y a des choses qui peuvent nous servir dans toutes les relations dont on vient parler, que ce soit nos relations familiales, que ce soit nos relations professionnelles, que ce soit nos relations de voisinage ou les relations que nous avons les uns avec les autres dans le cadre de l'Église. Il y a des principes, il y a des choses qui peuvent nous servir pour que nous puissions avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Comment la sagesse divine peut influencer nos relations? On va comprendre quels sont les éléments clés qui permettent cela. Alors, il y en a au moins 7, mais on n'aura pas le temps ce matin de voir les 7. On va s'intéresser sur 3 en particulier, qui, à mon avis, sont intimement liés. Le premier élément, c'est celui-là dont il est question. La sagesse d'en haut est premièrement pure. La sagesse divine inspire la pureté. On est dans une période de vacances. Alors, pour certains d'entre vous, les vacances sont déjà terminées. Peut-être que pour certains d'entre vous, elles vont venir, elles vont bientôt venir. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont allées en vacances au bord de la mer aujourd'hui, cette semaine, ni cette année, cet été? Il y en a qui sont allés au bord de la mer? Ouais, ok. Ouais, plusieurs, hein. C'est généralement une destination qu'on aime bien pendant les vacances. Il fait chaud et on a la possibilité de se baigner. Et quand on va se baigner, on aime bien se baigner dans de l'eau claire. Je connais des personnes qui, cette année, sont parties en vacances en Sardaigne. Et ils étaient dans un petit village, dans la campagne de Sardaigne. Et puis, quand ils le pouvaient, pratiquement tous les jours, ils allaient à la plage, à la mer. Et ils m'ont dit, quand ils sont revenus, mais la mer là-bas, quand on va dedans, elle est transparente. On met les pieds, on met les genoux, on rentre dedans, on voit où on met les pieds. Et c'est très utile parce que la plage où on allait, on pouvait faire 1 mètre, 2 mètres, et d'un seul coup, plouf, on n'avait plus pied. Il y avait comme une pente qui apparaissait. Et le fait que l'eau soit pure, soit transparente, on savait où on allait. Et ben ça, la pureté, c'est quelque chose qui est important dans une relation, parce que dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, c'est important de savoir où on va. Vous connaissez cette expression « nager en eau trouble » ou « naviguer en eau trouble ». Le sens de cette expression, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment où on va. Et c'est vrai que si je vais me baigner, que je m'enfonce dans une eau qui est trouble, s'il y a une pente de 1 mètre ou de 2 mètres, je vais perdre pied d'un seul coup. Et ben dans la relation, il faut savoir où on va. Il ne faut pas qu'on nage en eau trouble. Il faut que cette sagesse pure, au contraire, entraîne des relations pures, c'est-à-dire qu'ils soient transparentes, qui sont caractérisées par la confiance. Parce que si je suis transparent, si je sais où je vais dans la relation avec mon frère, ma sœur, mon ami, mon collègue, là, ça va susciter en moi la confiance. Et la confiance, c'est la base de toute relation. Pour avoir de bonnes relations, il faut des relations de confiance. Et la confiance, ça suppose de la transparence, de la pureté. Pour une relation de qualité, les intentions doivent être pures. Si c'est le cas, il y aura la confiance. Et cette confiance demande de la transparence. Voilà ce que j'aimerais trouver dans la relation avec toi. Voilà ce que moi je peux te donner dans la relation que j'ai avec toi. Si les intentions sont claires, à ce moment-là, on n'aura pas l'impression d'être utilisé ou exploité, on n'aura pas de mauvaise surprise parce que on sait ce que l'on peut recevoir dans le cadre de cette relation. On sait ce que l'on peut attendre et on sait aussi ce que l'on peut donner. Et si ça c'est clair des deux côtés, il va y avoir la confiance. On n'exigera pas de la personne ce qu'elle ne pourra pas nous donner. Ça instaure une sécurité certaine dans la relation. Vous savez, la confiance ne se décrète pas. Elle se gagne ou elle se perd. La confiance, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours définitivement acquis. La confiance, et ça c'est une image qui me parle assez, c'est comme un compte bancaire. Sur un compte bancaire, vous savez comment ça fonctionne? Il y a des mouvements, il y a du crédit et il y a du débit. Ben, la confiance, ça fonctionne de la même manière. Dans une relation, si la relation elle est bonne, si elle est transparente, si on sait ce qu'on peut se donner l'un à l'autre, il va y avoir du crédit, toujours plus de crédit. Le compte, il augmente, vous voyez ce qu'il y a sur le compte, il augmente. Et à ce moment-là, la relation, elle est bonne. Mais si, par contre, la confiance, elle n'est pas là, ben, vous voyez, il y a du débit. Et il faut travailler justement à faire en sorte qu'il y ait toujours plus de crédit que de débit dans notre relation. La confiance, c'est comme un compte bancaire, mais c'est aussi comme un baromètre. En fonction de mon niveau de confiance, je peux savoir ce dont je peux parler avec cette personne. En fonction de mon niveau de confiance, je peux savoir ce que je vais faire avec cette personne. En fonction de mon niveau de confiance, je peux confier une tâche à cette personne, notamment dans le cadre du travail ou d'une activité. Ça, c'est lié à la confiance. Sans confiance, pas de relation vraiment. Et établir et maintenir la confiance, ça demande la sincérité. Ça demande d'être sincère dans la relation. La sincérité, elle est nécessaire. Que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, entre le patron et les employés, que ce soit entre celui qui commande et les fournisseurs, il faut de la sincérité. Ça nécessite d'avoir des intentions pures, d'être honnête au sujet de ses sentiments et de ses pensées. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter en parlant de la pureté et de la sincérité, c'est que la sincérité n'exclut jamais la bienveillance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de sincérité qui fait plus de mal que de bien. Voilà, vous voulez être sincère avec quelqu'un parce que vous avez quelque chose à lui dire. Et vous savez, c'est un peu le genre de propos qu'on peut tenir et puis qu'on dit, de toute façon, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Moi, je suis sincère et je lui ai dit ce que j'avais à dire. Sauf que c'était ni le moment, ni la manière de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ça fonctionne très bien dans les relations entre époux, dans les relations entre parents et enfants. Voilà, il fallait que je lui dise. Sauf qu'il y a la manière de le dire et il y a le moment de le dire. Et il y a des moments, même si on est sincère, il faut arriver à temporiser les choses pour pouvoir trouver le meilleur moment et surtout trouver le meilleur ton. Parce que bon, là, quand on dit, voilà, moi, de toute façon, moi, je suis franc, moi, je suis dans la vérité, et puis bam, en fait, c'est pour casser les autres. La relation, elle va pas être bonne. Là, on travaille pas à construire une bonne relation. La sincérité n'exclut jamais la bienveillance. Une relation pure implique d'être, deuxièmement, sans indécision. C'est ce que Jacques dit également. Alors, on va passer à la fin de la liste, parce que vous allez voir que les choses sont quand même assez liées. La sagesse d'en haut est premièrement pure, elle est sans indécision. Le mot qui est utilisé là en grec, adiakritos, littéralement, c'est pas partagé. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'incertain, il n'y a rien d'indécis dans la relation. Et ce mot-là, il traduit la constance du caractère. Et ça, la constance, c'est quelque chose qui inspire la confiance. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Oui, c'est ça, Billy Graham. Billy Graham, c'est un des personnages les plus populaires aux États-Unis. Aujourd'hui, il est dans sa 98e année. Il a 97 ans, il aura 98 ans au mois de novembre. Et c'est quelqu'un qui est très influent, qui est très écouté. C'est un évangéliste. Cet homme a fait le tour du monde pour pouvoir partager le message de l'évangile. Il est allé dans des pays même on n'aurait pas pensé où c'était possible d'aller. Il a réuni des foules entières auxquelles il a parlé de Jésus, il a annoncé Jésus, il a annoncé le message du salut. Il a un message de repentance et un message de conversion qui sont très clairs. Mais ça n'empêche pas que Billy Graham est apprécié au-delà du cercle des croyants. Billy Graham, c'est quand même quelqu'un qui, pour moi, compte d'une manière particulière. Lorsque je suis allé aux États-Unis, avant de prendre l'avion à Chicago, avec Tina et Emmanuel, avec qui on se promenait aux États-Unis, ils ont dit, avant de partir le matin, on va vous emmener à Wheaton. Et à Wheaton, il y a une université chrétienne, certainement une des plus connues. Il y a 3000 étudiants qui sont formés chaque année. Alors, pas simplement en théologie, mais dans tous les domaines. Donc, on est allé à Wheaton. Et à Wheaton, vous avez le centre Billy Graham. Et c'est comme un musée dans lequel est expliquée toute l'évangélisation qui a été faite aux États-Unis. Donc, si tu veux, la diapo d'après, elle montre un peu voilà, à quoi ça ressemble. Vous avez des exposés comme ça, des photos qui montrent comment l'évangile a progressé aux États-Unis depuis les origines, depuis le XVIIe siècle. Et puis, en fait, quand vous progressez dans le musée, au bout d'un moment, vous avez un aperçu du ministère de Billy Graham. Et vous voyez des photos de tous les endroits où il est allé. Et notamment, en 1986 précisément, il a réuni pendant une semaine les Français à Bercy et il a annoncé l'évangile. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je prêche, ce qui fait que ce matin vous m'entendez, c'est parce que Billy Graham est venu en 1986 à Bercy. Parce que dans l'église où j'étais à l'époque, on avait fait un bus et puis on était allé à Bercy, j'ai entendu le message de l'évangile. Et c'est là vraiment qu'il y a eu un basculement dans mon existence. Et que vraiment là, j'ai fait le pas de m'engager et de recevoir Jésus dans mon cœur. Tout a commencé pour moi à ce moment-là. Donc si le message de ce matin ne vous plaît pas, vous écrivez à Billy Graham. C'est de sa faute si je suis là ce matin. Il a réuni comme ça des gens, vraiment des milliers de gens avec ce message très clair. D'ailleurs oui, je crois qu'il y a la photo d'après. Voilà, oui. Là c'était... Je suis devant la photo où tout a commencé pour moi, en fait. Mais même s'il a ce message chrétien, il est apprécié et il est écouté par les non-chrétiens. Quelquefois même, les autorités des États-Unis lui ont confié des missions. Ils lui ont demandé d'apporter des messages parce qu'il est allé même annoncer l'évangile en URSS, en Russie, à l'époque communiste. Et il a apporté quelquefois des messages de la part du gouvernement américain aux Russes pour faire en sorte que la Russie et l'Amérique puissent avoir des relations plus pacifiques. Vous voyez quand même, hein, il a même suscité la confiance des autorités de la Corée du Nord. Corée du Nord qui aujourd'hui reste encore une dictature communiste très dure. Et la confiance qu'il a inspirée chez les dirigeants de la Corée du Nord a permis de mettre en place tout un réseau médical pour venir au secours de la population de la Corée du Nord. Donc vous voyez cette influence. Pourquoi ? Parce que Billy Graham n'a jamais changé de langage. Il est resté toujours intègre. Il a toujours été cohérent avec ses convictions. Ce qui malheureusement n'a pas toujours été le cas aux États-Unis avec des gens qui avaient de l'audience comme ça. Billy Graham, c'est quelqu'un qui est constant. Constant dans son caractère. Et c'est ce qui fait qu'il est écouté et qu'on lui fait confiance. Parce que il faut bien admettre que c'est difficile de faire confiance à des gens qui sont changeants. Les relations sont pas vraiment transparentes. Elles sont troublées par le fait que leur opinion varie souvent. Un coup ils pensent ça, un coup ils pensent le contraire. Un coup ils disent oui, un coup ils disent non. Quand on leur demande quelque chose, ils disent ce qu'ils vont faire et puis finalement ils font pas. Ou alors s'ils commencent à faire, ils vont pas jusqu'au bout. Oui, au début, j'étais convaincu, puis bon, finalement, oh, j'ai plus envie, ou oh, j'ai réfléchi. Vous voyez, ça, c'est pas de la constance, c'est le contraire de la constance, c'est être changeant. Vous avez un exemple de ça dans le livre des Actes. Lorsque Paul et Barnabas ont entrepris leur premier voyage missionnaire, ils sont partis d'Antioche, et il nous est dit qu'ils vont emmener avec eux Jean, surnommé Marc. C'est raconté dans Actes chapitre 13. Et Jean-Marc, il est là pour aider Paul et Barnabas dans leur action missionnaire. Mais voilà que, arrivés en Pamphylie, ils prennent le bateau, ils vont dans l'île de Chypre et puis ils continuent après en Turquie, en Pamphylie. Voilà que Jean-Marc décide de rentrer chez lui. Pas de rentrer à Antioche, mais carrément de rentrer dans sa maison à Jérusalem, parce qu'il venait de Jérusalem. Alors bon, Paul et Barnabas, ils continuent le voyage, ils fondent partout des églises. Après, ils reviennent à Antioche, d'où ils étaient partis, et ils racontent tout ce qui s'est passé, tout le succès de leur mission. Et puis, ils envisagent un deuxième voyage. Paul dit à Barnabas, allez, si on retournait dans les églises qui ont été fondées pour voir comment le travail continue. Et Barnabas, il dit, bon, d'accord, je préviens Jean-Marc, on fait nos bagages et puis on repart. Et Paul, il dit, oh là là, attends, moi, je suis pas d'accord. Là, Jean, tu as vu quand même le coup qu'il nous a fait. Il nous a pas vraiment accompagnés dans l'œuvre. Il est venu, au départ il était avec nous, et puis finalement, en cours de route, on n'était même pas à la moitié du voyage, hop, il rentre chez lui, il rentre à la maison. Et le texte nous dit même que ça a été cause d'un vif dissentiment. Il y a eu embrouille entre Barnabas et Paul. Hein, pourtant la Bible dit « tu ne t'embrouilleras point », mais il y a eu embrouille. À tel point que Barnabas, il a dit « bon, bah moi je pars avec Jean-Marc », et Paul, il a choisi Silas. Mais quel est le reproche que Paul fait à Jean-Marc, c'est son manque de constance. Il a été changeant. Et on voit l'impact que ça a sur sa relation avec Jean, mais sur sa relation avec Barnabas. Il ne savait pas sur quel pied danser, en fait. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Les intentions n'étaient pas claires. Ça manquait de transparence. La constance, au contraire, elle permet aussi de savoir où on va. Parce que les gens constants ne sont pas soumis aux circonstances ou à leurs humeurs, à ce qu'ils ressentent. Ils donnent plus d'importance à la relation elle-même qu'aux événements qui pourraient affecter la relation. C'est pour ça que la constance, c'est très important dans la relation. Et c'est pas étonnant que la sagesse divine nous invite à rechercher cette constance dans la relation. Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment sécurisant dans la constance, c'est que c'est l'effet de la maturité spirituelle. Parce que un des signes de maturité spirituelle, c'est justement de ne pas être dépendant des circonstances. C'est le fait que les événements extérieurs ne vont pas forcément m'affecter en profondeur. Des événements et des circonstances extérieures, notamment les plus pénibles, ne vont pas changer mon être intérieur. Et ça ne peut se vivre que si vraiment j'ai cette relation avec Dieu, si Dieu c'est mon refuge, si en Christ je trouve justement la capacité de renouveler mon être intérieur. Et ça, le fruit, c'est la constance, c'est une preuve de maturité spirituelle. Et on va voir, pour terminer, une relation pure implique aussi d'être sans hypocrisie. C'est le mot qui est utilisé tout de suite après, sans indécision et sans hypocrisie. Avoir une relation sans hypocrisie signifie que l'on soit le même quand on parle avec la personne et quand l'on parle de la personne. L'hypocrisie, c'est de la dissimulation. c'est quand on ne montre pas nos vrais sentiments ou nos vraies intentions, c'est quand nos paroles et notre comportement ne correspondent pas à nos intentions. Le mot hypocrisie en grec fait référence au jeu des acteurs. Les acteurs dans l'Antiquité grecque en particulier, puisque le théâtre c'est une invention grecque, portaient des masques lorsqu'ils paraissaient sur la scène. Ils revêtaient des masques de théâtre qui étaient faits en cire, en bois ou en cuir. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'archéologie ne permet pas de retrouver des masques de théâtre dans la mesure où ce sont des matériaux périssables. Mais on a retrouvé des représentations de ces masques qui servent de décoration, sont des objets votifs ou des objets décoratifs que les gens mettaient dans leur salon. Vous avez là plusieurs exemples. Donc ça, c'est le type de masque qu'un acteur, lorsqu'il entrait sur scène, portait. Vous avez toutes sortes d'expressions, mais chaque masque représente aussi un personnage. Vous aviez le masque du jeune homme, tout ça était codifié. Le masque du jeune homme, le masque du vieillard, vous aviez le masque du soldat, le masque du paysan, le masque de la jeune fille, de bonne famille, mais aussi le masque de la servante, même le masque de la prostituée ou de la courtisane. Il y avait un masque pour chaque personnage et chaque émotion. Et c'est ce qui permettait à un acteur de jouer plusieurs rôles, puisque quand il arrivait, il pouvait avoir le masque du vieillard, il sortait de scène, et quand il revenait, il pouvait avoir le masque de la jeune fille, parce que c'était interdit aux femmes de faire du théâtre, il y avait que les hommes, donc les rôles féminins étaient aussi interprétés par des hommes. Donc, à partir du moment où il y avait le masque, il pouvait interpréter plusieurs rôles, un acteur, plusieurs personnages, une personne, mais plusieurs masques. Et l'hypocrisie, en fait, c'est ça. C'est porter un masque qui ne révèle pas qui je suis vraiment. C'est je joue un rôle. Je peux avoir le masque de l'ami disponible qui est là, qui prend du temps pour écouter. Et puis, je peux avoir avec une autre personne le masque de la personne qui est en train de dire « Mais sérieux, comment il m'ennuie avec ses problèmes ? Il me saoule !» Et puis, sincèrement, il l'a cherché, c'est normal que ça lui arrive. Un masque de ce côté-là, un masque de ce côté-là, comme ça. C'est comme le masque de l'enfant qui écoute bien tous les enseignements que lui donnent ses parents, toutes les bonnes recommandations que lui donnent ses parents, les encouragements de ses parents qui sont chrétiens, qui dit « Oui, maman, j'ai bien compris. Oui, papa, t'as raison, je vais faire ça. » Et puis, quand il est à l'extérieur, c'est le masque de l'enfant qui ment, de l'enfant qui juge, de l'enfant qui fait la fête, de celui qui boit, de celui qui trafique. Un masque d'un côté, un masque de l'autre. C'est le masque du chrétien spirituel qui vient à l'église, qui adore, qui prie, qui écoute la parole. Et puis lorsqu'il est à l'extérieur, c'est le masque de Monsieur Tout-le-Monde qui vit sans le souci quotidien de sa relation avec Christ. Un masque d'un côté, un masque de l'autre. L'hypocrisie, c'est je te fais croire quelque chose à mon propos qui n'est pas vrai. Je ne suis pas celui que tu crois, mais je te le dirai pas. Au contraire, je vais entretenir l'illusion. Je vais continuer de jouer un rôle. C'est pas pur, c'est pas transparent. L'hypocrisie, c'est comme une publicité mensongère. Publicité mensongère. Il y a quelque temps de cela, un jour, Sandrine, mon épouse, elle revient à la maison et elle dit « Regardez, j'ai acheté des nouveaux, je crois que c'était des yaourts ou des petits gâteaux dans des paquets. » Le paquet était vraiment très beau. Alors Sandrine dit, bon, bah, ça coûtait un peu plus cher, mais ça a l'air appétissant, ils en ont bien fait la pub, et puis les proportions ont l'air importantes. Donc ok, on goûte, on ouvre le pot, à l'intérieur du pot, il y avait un quart de vide. En fait, là, quand on voyait le pot, bah, ça avait l'apparence d'être important, on avait l'impression qu'il y avait la quantité, le packaging était beau, on ouvrait, et bien à l'intérieur, on n'a pas trouvé ce qui était annoncé à l'extérieur. L'hypocrisie, c'est ça. C'est quand à l'extérieur, ça paraît bien, mais à l'intérieur, on trouve pas ce qu'il y a à l'extérieur. C'est quand vous allez au fast-food, vous savez, sur l'affiche, là, le sandwich, il est toujours magnifique. Vous avez le steak appétissant, vous avez le pain moelleux, vous avez la salade qui est bien verte, vous avez les oignons, là, qui brillent. Vous dites, c'est celui-là que je veux, il est gros comme ça, et le truc qu'on vous donne, il est comme ça. Vous voyez ? Eh ouais, voilà, ça, il y a un décalage. L'hypocrisie, c'est ça. Voilà ce que j'annonce, mais voilà ce qu'en réalité tu vas avoir. Il y a quelque chose que j'ai apprécié aux États-Unis, j'arrête avec les États-Unis après, mais c'est que dans les fast-food où vous allez, tout ce qui va être dans le sandwich est présenté devant vous. C'est-à-dire, vous avez le comptoir qui est vitré, et puis derrière, vous avez le vendeur qui est là, et puis il vous demande quel pain vous voulez, donc vous choisissez le pain. Il vous demande après qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez un steak, est-ce que vous voulez deux steaks. Il vous demande quelle salade vous voulez, la quantité. En fait, tout se fait en collaboration avec le vendeur. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, le résultat, on l'a vu. Pourquoi ? Parce que les choses sont transparentes. Je vois ce qu'il met dans le sandwich. Je lui demande. Le vendeur, il dit, voilà ce que je peux te donner. Ne me demande pas autre chose. Ça, c'est ce que je peux te donner. Et au terme, on est d'accord. Dans une relation pure, dans une relation sans hypocrisie, ça fonctionne comme ça. Voilà ce que je peux te donner. Mais je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas être quelqu'un que je ne suis pas vraiment. L'hypocrisie, elle sape la confiance à la base. Si de bonnes relations sont fondées sur la confiance, l'hypocrisie, elle démolit tout. C'est comme un missile qui est envoyé au pied d'un immeuble. Ça, bam, l'immeuble, il s'écroule d'un seul coup. Quand ce qui est dit sur quelqu'un par derrière lui revient aux oreilles, c'est très blessant. Et la désillusion, elle est violente. Ah, lui ou elle, il a dit ça sur moi. Alors que justement, dans la relation que j'avais, il n'a jamais fait allusion à ça, il n'a jamais rien dit à ce propos-là. C'est extrêmement blessant. C'est terrible parce qu'il y a une part de mensonge là-dedans. Ça, c'est humain. Hein. Et je crois qu'une des choses les plus difficiles dans la relation, c'est de pouvoir redonner sa confiance à quelqu'un qui a été hypocrite. C'est dur, hein ? Parce qu'on est blessé, parce qu'on est déçu, et la confiance, elle est réduite à zéro en peu de temps. C'est pour ça que Dieu ne veut pas, et que dans la sagesse qui doit inspirer nos relations, il demande que ce soit sans hypocrisie. La sagesse, elle nous conduit plutôt à avoir un langage et un comportement qui soit cohérent, des choses qui se tiennent. Elle nous conduit à avoir là un langage, un comportement qui soit sans décalage avec ce que je pense vraiment, avec ce que je suis vraiment à l'intérieur. Cette cohérence, elle contribue à entretenir une relation de confiance. Ça, c'est sûr que là, s'il n'y a pas de phare, si les choses ne sont pas cachées dans leur relation, la confiance, elle va venir, elle va être là. En entendant ce partage, vous vous dites peut-être, j'aspire à de bonnes relations. Là, j'entends ça et puis je réalise que avec un tel, avec une telle, dans ma famille, là, sur mon lieu de travail, à l'école, à la fac ou que sais-je, je crois que mes relations, elles pourraient être meilleures. Et j'aimerais bien avoir ce type de relation inspirée par la sagesse de Dieu, des relations pures, des relations sans incertitude, des relations sans hypocrisie. Je reconnais que de bonnes relations sont fondées sur la pureté des intentions. Là, c'est vrai, je le réalise, je le comprends d'une manière peut-être plus particulière ce matin. Je reconnais que de bonnes relations, ça doit être fondé sur la confiance, qu'il ne peut pas vraiment y avoir de relation si la confiance elle n'est pas là. Je reconnais que de bonnes relations, ça nécessite de la transparence. Je reconnais que j'ai besoin de plus de constance parce que, je suis changeant. Je reconnais peut-être que mon hypocrisie compromet mes relations, que je joue un jeu avec un tel ou... Mais c'est un idéal qui est tellement haut que ça me paraît impossible à atteindre. Comment faire pour être constant? Comment faire pour ne pas être changeant? Comment faire pour être transparent, pour avoir cette honnêteté dans mes paroles, dans mes intentions? Comment faire pour briser cette hypocrisie qui est là et qui peut-être m'emprisonne? Si nous essayons par nous-mêmes de trouver dans nos relations une parfaite transparence, une parfaite constance, de renoncer à toute hypocrisie, nous nous fatiguerons vite et les résultats ne seront certainement pas convaincants. Si la sagesse que je veux appliquer repose sur mes efforts, et même si je la veux inspirer de la parole de Dieu, parce que là je lis dans Jacques ce qui est nécessaire pour que j'aie de bonnes relations, mais si l'application repose sur mes efforts, cette sagesse sera réduite à nouveau à une œuvre humaine parce que je vais compter sur moi. Je vais reposer sur mes ressources. Je vais me reposer sur mes ressources à moi. La solution est ailleurs. La solution, elle repose sur notre désir de laisser s'exprimer la vie que nous recevons lorsque Christ est dans notre vie. Lorsque là, j'ai accepté que Jésus vienne dans mon existence. Lorsque par la foi, je l'ai reconnu comme mon sauveur. lorsque je le laisse régner, comme on l'a chanté tout à l'heure, à ce moment-là, cette relation-là va me permettre de vivre cette sagesse. La foi chrétienne n'est pas une religion. La foi chrétienne n'est pas un ensemble de commandements appliqués. C'est d'abord cette relation que j'ai avec Christ. C'est d'abord cette relation qui va me donner la vie que Dieu le Créateur a prévu que j'ai dès le commencement, dès les origines. Cette vie, elle est bousculée. Cette vie, elle est tachée par ma vie qui a été loin de Dieu. Mais si je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, si j'entretiens cette relation, si je veux cette relation par la foi, alors à ce moment-là, cette sagesse va devenir une réalité dans mon existence. Il y a une prière que Paul a faite, qu'on trouve dans Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3. Il dit que les chrétiens, les croyants, pourront connaître le secret de Dieu, le mystère de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. Si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez recevoir la sagesse de Dieu, regardez à Christ, recevez Christ, placez votre foi en Christ. Parce que en Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. La sagesse divine, ce n'est pas simplement ce que Dieu dit, même au travers de la bouche de Jésus. La sagesse divine, c'est Jésus lui-même, c'est Christ lui-même. Il n'est pas question de se mettre à l'écoute d'un sage inspiré de Dieu dont il faudrait suivre les enseignements, parce que Christ est lui-même la sagesse divine. Si je crois qu'il est mort pour mes péchés, si je crois qu'il est ressuscité et que je peux avoir une relation personnelle avec lui par la foi, alors Christ vit en moi. Ça signifie que la sagesse de Dieu vit et agit en moi. C'est toute la différence. La sagesse n'est pas une collection de préceptes impossibles à mettre en pratique, mais c'est une personne qui vit en moi, une personne qui parle en moi, une personne qui se forme en moi. C'est Christ présent par son esprit. Et c'est ce qui rend l'expression de la sagesse possible. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une façon de faire. C'est simplement, Seigneur, dans ma relation avec ma femme, avec mon époux, avec mes amis, avec les chrétiens et les chrétiennes de cette église, tu connais mes faiblesses, tu les vois. Mais voilà quel est mon objectif. Voilà ce que je veux. Je veux de la pureté, je veux de la transparence. Voilà ce que je veux. Je ne veux pas d'hypocrisie. Je veux de la constance. Alors Seigneur, toute cette sagesse qui est en toi, viens la diffuser en moi. Qu'elle puisse se manifester, qu'elle puisse se révéler, qu'elle puisse agir en moi par ton esprit, par ta présence. Tu es ressuscité, tu es vivant. Tu es au ciel, mais tu nous as envoyé ton esprit pour que ces choses deviennent possibles. La sagesse divine n'est pas un ensemble de commandements à appliquer, mais c'est une vie qui se diffuse en moi par la relation que j'ai avec Christ. C'est pour ça que c'est important de travailler et d'entretenir cette relation, de toujours aimer Dieu plus, de toujours aimer Jésus plus. Parce que la qualité de ma relation avec Christ déterminera la qualité de mes relations avec les autres. On va prier pour ça, on va se recueillir. On va se placer avec sincérité, avec transparence devant Dieu. Si ma relation avec les autres commence avec ma relation avec Christ, il faut d'abord que je sois transparent par rapport à Christ. Et on va prier ensemble. On va avoir ce moment de recueillement. Seigneur, te bénissons parce que tu nous as laissé quelque chose de précieux au travers de ta parole. Seigneur, c'est une somme de connaissances et de sagesse immense. Et ce qui nous touche, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous donne, qui nous transmet cet héritage. C'est Dieu lui-même qui remplit l'infini et l'éternité, qui donne aux hommes la connaissance de cette sagesse. Elle est incarnée en Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver, qui est venu pour nous aimer, qui n'est pas venu pour nous condamner, qui n'est pas venu pour nous pointer du doigt pour dire « tu n'accomplis pas la volonté de Dieu », mais qui est venu là pour nous sauver, pour dire « la volonté de Dieu, je vais l'accomplir pour chacun d'entre vous. Et si vous croyez en moi, vous allez recevoir cette vie qui vous permet de vivre la volonté de Dieu. » Seigneur, je te prie pour que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous. Que ce soit la transparence dans les relations dont nous avons besoin d'instaurer. La confiance, que ce soit la constance. Seigneur, viens inspirer cela en nous. Nous voulons le puiser dans la foi que nous plaçons en toi ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser gagner par l'hypocrisie. On n'est pas là pour jouer un rôle, ni à l'église, ni ailleurs, ni sur notre lieu de travail, ni dans ma famille, ni dans mon voisinage, ni dans mes relations avec mes amis. Non, je suis appelé à être vrai, pour tisser, pour construire une relation qui soit solide, qui soit digne de confiance. Apprends-nous ces choses, Seigneur. Apprends-nous au travers de ton esprit, de l'action de ton esprit, à les vivre, à les mettre en pratique, non pas comme des règlements et des commandements, mais comme un effet de ta présence en nous, des miracles que tu peux accomplir par ton Saint-Esprit. Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux, Seigneur, que ta présence soit renouvelée dans ma vie. Je veux ouvrir mon cœur de telle manière à ce que ces choses deviennent des réalités. La transparence devienne une réalité, la constance devienne une réalité, l'absence d'hypocrisie devienne une réalité. Tu es celui qui peut aller faire au-delà de ce que nous pouvons. Parce que tu es tout puissant et cette toute puissance, elle agit en nous. Alléluia, Seigneur.